pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il y a ceux qui rêvent de se mettre à la céramique, celles qui veulent apprendre l'arabe, le chinois ou même l'allemand. Ceux qui ont l'intention de s'inscrire. Un stage d'écriture créative, un cours de cuisine japonaise, une association pour la promotion de la Bourgogne verte ou la défense des victimes du Mediator. Ceux qui ont décidé de s'engager dans le militantisme de quartier, la sauvegarde des sentiers côtiers, des crapauds migrateurs, la lutte contre les migrants, ça existe, la défense des réfugiés, heureusement aussi. Le plus courant, ce sont ceux qui pensent qu'ils auront enfin du temps pour s'occuper de leurs petits-enfants. Mais sur les sites spécialisés, on trouve aussi des tas d'autres idées qui ressemblent aux activités qu'on propose aux enfants dans les centres aérés, comme le tir à l'arc, le théâtre, la randonnée, la peinture sur soie, les balades historiques, la méditation tantrique, quoique je ne sois pas sûre tout à fait que celle-là soit pour les enfants. Autant de suggestions pour répondre au constat pascalien bien connu que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, poursuit le janséniste, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. Il y a aussi les conseils généraux, les maximes de vie, expressions figées et autres diktats effrayants de pensée positive qui recommandent de saisir ce moment pour, je vous les donne dans le désordre, s'occuper de soi, aborder un tournant, prendre son envol, courir à la vie, muscler son engagement, réussir le grand saut et surtout sourire à la vie. Puis vient le jour J, le D-Day, le pot de départ à l'heure du déjeuner, les discours avec des souvenirs plus ou moins drôles et le cadeau collectif. Et arrive le moment où on est supposé cesser son activité rémunérée, perdre son existence productive et la reconnaissance que procure parfois la dépense de sa force de travail. C'est là que nos histoires commencent et c'est une autre paire de manches. Le jour de la retraite, en vrai, ce qu'on fait, quel effet cela fait, pourquoi il faut éviter ça à tout prix ou pas, surtout si on perd une partie de sa retraite avec l'augmentation de la CSG. Trois réponses, trois histoires, c'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture par Sophie Knapp.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Quand on se dit, quand je serai à la retraite, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, mais c'est pas comme les choses qu'on veut faire en vacances. On se dit, il y a plein de choses qu'on voudrait faire parce que c'est agréable et tout. Là, c'était un problème non réglé depuis quelques années. C'est-à-dire, je m'apercevais, même, on me le disait, mais tu as des dents cassées, et c'est embêtant parce que, tu t'es bien conservé, mais les dents, là, ça va pas du tout. Faut faire quelque chose. Va voir le dentiste, c'est ce que me disaient les amis. Alors, c'est embêtant parce qu'on n'ose plus sourire. Je souriais avec trop de retenue. Et puis, en fait, il y a une sorte de ségrégation vis-à-vis des gens qui ont des dents cassées. C'est des gens qui sont, au niveau de l'hygiène, ils sont pas terribles puisqu'ils ne sont pas bien soignés. Et puis, c'est des pauvres. Comme l'ascendant, c'est l'image du pauvre. Et puis voilà, j'ai décidé de ne pas aller voir un dentiste en France, que j'irai me faire soigner les dents à l'étranger. Cette idée-là m'a permis de passer à l'action tout de suite, parce que comme ça, je rebouclais pas avec des relations difficiles avec le dentiste, parce que comme j'avais un salaire très modeste. Le second obstacle, après l'idée de se décider d'y aller, c'était l'argent. Donc, j'ai fait un emprunt, et l'emprunt que je pouvais faire me permettait de me soigner les dents au mieux, mais à l'étranger. Bon, je me renseigne, je me dis, je choisis le pays. Alors, je demande autour de moi des gens, il y a des gens qui m'avaient dit, mais non, il faut aller en Inde. Parce que en Inde, dans une région qui a été... où il y avait des liens avec l'URSS, ils sont très bons au niveau technologique, dentaire et autres. Finalement, bon, je me suis dit, je vais n'importe où, mais en Europe. Donc, je me suis dit, allez, j'ai jamais été dans ces pays comme la Hongrie. Le premier contact qui s'est fait à Paris avec un dentiste qui a évalué les travaux à faire... qui m'a fait un devis. Alors là, il donne des prix avec les variations. Alors évidemment, je ne parle pas la langue. C'était avec des traductrices interposées, voilà. Alors évidemment, avec les photos qu'il faut, donc on juge le... Comment, je choisis mes options, comme on achète une voiture, avec tel implant, enfin voilà. La première séance, c'était pour arracher les dents. Bon, 7 dents d'un coup. Alors, ça veut dire que ça dure longtemps, le truc. Puis à un moment, l'anesthésiant est... Le produit qui rend indolore l'opération perd son effet. Alors, il faut faire signe que maintenant, il faut recommencer et repiquer et tout. Donc, ça avait un côté un peu industriel. Hein. Les dentistes français doivent se trouver à être des bijoutiers à côté des... Voilà. Donc, j'ai vécu la différence de mode opérationnel de manière un peu étonnée. Voilà. Alors effectivement, une dent, deux dents, trois dents, enfin, ça m'a semblé très très long la séance. Dès la première séance, je me suis dit, oula, c'est... D'un certain côté, c'est ce que je voulais, parce que je voulais pas avoir sept séances. Enfin, j'aurais fait ça en France, j'en avais pour 10 ans de faire les mêmes travaux, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et je me suis dit, non, je veux pas, je veux que ça soit fait à peu près dans l'année. À peine rentré, on me dit « Ah, ça y est, t'as de nouvelles dents et tout ». Je dis « Non, l'histoire n'est pas finie ». Mais ça a fait illusion. C'était un espèce de dentier qui m'a mis, mais un truc très léger. Hein. Il fallait que je fasse attention pour manger, parce que ce dentier de pacotille n'allait pas tenir le coup. C'est vrai que ça a beaucoup joué pour me donner la pêche pour... la suite des événements, parce que il y avait déjà un résultat dans le regard des autres. La deuxième fois, c'est... Bon, j'avais choisi les implants, ce qu'il y a de mieux, hein, les implants suédois, c'est bien connu. Et puis, le dentiste était très costaud. C'est, on sentait un moitié forgeron, enfin, quelque chose de... Mais habile de ses mains. Mais c'était les vibrations de la perceuse qui me perçait la mâchoire, ça me faisait vibrer. Et puis, on m'a dit que j'avais de la chance de ne pas être fumeur, parce que justement, les fumeurs, face à des trucs chirurgicaux, face aux, les implants ne tiennent pas, les os de la mâchoire sont... Enfin voilà, donc j'avais une bonne santé qui a fait que j'ai vécu ça bien. Enfin, j'étais confiant. Donc je retourne au printemps, et puis on a commencé à mettre les couronnes. J'aurais pu mettre d'autres couronnes, mais j'ai pensé que ça suffisait.
Parce qu'eux, ils voulaient vous en mettre encore combien ?
Oh, une quinzaine quand même. Voilà, ça suffisait. Et puis, je voulais avoir l'avis d'un dentiste français. C'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai trouvé un dentiste très très bien, qui m'a conforté. C'était un peu comme un triomphe. Je revenais comme César qui avait conquis la Gaule. Enfin, j'avais pris une revanche sur le destin avec mes dents cassées. J'avais un problème de ma vie antérieure à résoudre. Mais grâce à la retraite, j'ai pu le faire. Je ne l'ai pas fêté, mais quand même, quand j'ai mis la nouvelle photo sur ma page Facebook, j'ai eu... J'ai eu beaucoup de retours.
C'est vrai que la retraite, en fait, c'est un des seuls changements dans la vie, à mon sens, qui est prévisible et qu'on doit anticiper. Alors, j'ai évolué principalement à peu près une trentaine d'années au niveau de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes 16-25 ans qui ont des difficultés scolaires et familiales. Et puis j'avais quand même voilà, des grosses responsabilités, une équipe de 20 personnes, une structure intercommunale avec beaucoup d'élus, beaucoup de pression. Et voilà, je commençais à fatiguer. Et comme j'ai commencé à travailler jeune, en fait, j'ai regardé un peu vers quel âge je pourrais partir. Et en 2012, j'ai donc eu en début d'année 60 ans et je suis partie à la fin 2012. Voilà, tout en préparant, bien sûr, ce départ. En fait, l'entreprise pouvait me payer, disons, une petite préparation à la retraite. Et j'ai fini par trouver un stage. Donc, c'était 3 jours de formation. La grosse partie, c'était comment construire son nouveau projet de vie. Donc, j'étais un peu en décalage. Moi, j'estime que j'avais un travail qui ressemblait plus à du militantisme et de l'engagement. Les autres n'en étaient pas du tout là. Hein. Les autres étaient extrêmement ravis, contents de partir. Moi, je pense qu'à l'époque, et puis 5 ans plus tard, je peux vous dire que je suis encore là-dedans, en fait, dans cette ambivalence, dans cette contradiction entre je peux plus, quoi, là, il faut que je m'arrête, parce que... Et puis, les doutes de s'être arrêté alors qu'on aimait ce qu'on faisait, quoi, voilà. Et ce qui m'a amusée vraiment à la fin des 3 jours, c'est que la formatrice nous a dit « Bah voilà, vous allez vous écrire une lettre. Nous sommes en décembre, je m'engage à vous l'envoyer dans 3-4 mois. Donc soyez bienveillants aussi par rapport à vous. » Et c'était « Bonjour Josiane, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien profité de tes premiers mois de retraite qui auront été, je pense, des grandes vacances. » Mais après, j'espère que tu as réalisé ce que tu voulais faire et que tu es vraiment heureuse dans ta nouvelle vie. Mon pot de départ, en fait, s'est passé lors de mon dernier jour de travail. Donc c'était... d'autant plus fort et d'autant plus chargé en émotions que quelques heures après la fin du pot de départ, je partais définitivement de la structure. Et donc je suis restée un peu seule parce que j'avais vraiment besoin d'être seule. Et puis je voulais donc répéter le petit discours que j'avais écrit. Moi, j'étais un peu, sincèrement, dans un état second, je pense, toute la journée, même les jours qui ont suivi. Mais après, avec le recul, là, je me dis que je suis contente d'avoir fait ce pot de départ, même si j'aurais préféré partir un peu comme une voleuse. Je suis contente parce que je pense que pour la retraite, en fait, c'est terminer quelque chose. Et pour bien quitter aussi quelque chose... Moi, je pense qu'il faut dire au revoir. Voilà, faut dire au revoir aux gens. Puis c'est un peu du rite de passage. Et moi, je voulais, je voulais donner, je voulais léguer pour partir tranquille. Et là, très vite, il va y avoir le premier discours qui est le discours de mon président et qui est un élu.
Madame la directrice, mesdames et messieurs, les autres missions locales et les autres partenaires, chère Josiane. Je ne dirai que quelques mots rapides, parce que quand même l'important c'est d'accompagner Josiane dans ce moment un peu particulier.
Voilà, ça c'était le sien, et après il y avait le mien.
Donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotions que je m'adresse à vous. Ben, vous voyez, là, je n'ai pas besoin de... Voilà, c'est beaucoup d'émotions, mais aussi finalement c'est une grande, grande joie.
Tout le monde en même temps venait me dire au revoir. Et là, avec le recul... Je me dis, en fait, quand on est jeune, quand on a 18-20 ans, il y a plein de choses qu'on va faire pour la première fois. Et puis, là, par contre, à 60 ou 65 ans, il y a des choses où ça va être des dernières fois. À Voilà. Et ben là, je savais qu'il y avait aussi des choses qui seraient des dernières choses. Dans le terme retraite, dans la racine, il y a retrait. Ça veut dire se mettre en retrait de la vie. Et ben non, non. Je veux dire, mais après, faut trouver comment on continue à rester en vie, à vivre, mais à vivre autrement et à faire autre chose, quoi. Et puis, comme j'adore les enfants et la lecture, voilà, moi j'ai eu envie aussi de partager ce goût, en fait, pour les livres. Dès qu'il y a des enfants quelque part, je les ai sur les genoux, sur le dos, partout. Et là, je suis moi, je suis dans mon élément. Donc voilà, je le fais une fois par semaine. Et voilà, je vois aussi ce que c'est que d'être grand-parent, l'importance de ce rôle-là dans la transmission. Je crois que c'est aussi dans le cours des choses. On a des enfants, c'est bien aussi d'avoir après des petits-enfants. C'est une continuité. Toutes mes amies sont grand-mères. Et quand j'observe mes amis, oui, je trouve que c'est génial, quoi. Mais par contre, je me dis que c'est quand même très sportif et qu'il ne faudrait pas que ça m'arrive dans 10 ans. Parce que je pense que j'aurais plus la pêche. Moi, ce que je ressens profondément, c'est un désir. Voilà, un désir vraiment d'avoir encore des petits et de pouvoir m'en occuper, de pouvoir leur apprendre aussi des choses, de pouvoir, oui, passer. Voilà, c'est de l'ordre du passage.
France Culture, les pieds sur terre.
Voilà, t'as mes bricolages de retraité. C'est mon abri de jardin, là. Et là, la cabane avec porte-fenêtre.
Et les deux fenêtres.
Vu sur la fontaine à côté.
Donc là, ça sert à quoi cet endroit?
Ça a été la question, ça sert strictement à rien, a priori, puisque moi je l'ai fait pour me faire plaisir. Donc j'ai décidé, j'ai dit tiens, j'ai envie de faire une cabane de jardin, donc j'ai fait une cabane, après on verra.
Ça fait combien de temps que vous habitez ?
Moi, je suis arrivé il y a 13 ans.
Donc vous étiez encore en activité ?
J'étais encore en activité, ouais. Comme je suis pas là ce soir avec mon ami Boss, j'ai préparé à manger.
Ah, parce que votre compagne travaille encore ?
Oui, encore 9 mois. Mais sans heureux événement, ah, si, la retraite, ça sera l'heureux événement au bout de 9 mois. Ça, c'est la seule photo de mon périple en vélo. Juste devant le portail, j'ai le vélo, le sac à dos et tout. Et je suis prêt à partir. Il est 6 heures du matin, ce 21 juin 2016, exactement. Je m'apprête à faire je ne sais trop combien de kilomètres, parce que ça va être en fonction de ma forme, vu que je ne me suis pas spécialement entraîné. L'objectif étant d'arriver à Mailly, à la maison de campagne, qui est à 200 kilomètres quand on ne se trompe pas de chemin. Alors, je n'ai pas la carte du départ, mais le départ, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Hein. Donc, c'était Arpajon et tout, et j'ai rejoint vers la forêt de Fontainebleau. Tout se passait bien, j'avais 60 km, j'avais mis un peu plus de 3 heures. Donc, j'étais à Rumont, il était 9h15, 9h30 du matin. Et Rumont est en haut d'une côte. Et cette côte, j'ai eu du mal à la monter, du mal. J'ai dit, tiens, c'est bizarre quand même. Et j'ai vu que j'étais crevé. Bon. Donc, je suis descendu du vélo. J'étais à 300 mètres de Rumont. Donc, j'ai dit, je continue en poussant le vélo. Je vais bien trouver sur la place du village quelque chose. Je suis arrivé, évidemment, c'est un village. Donc, il n'y avait rien. Il n'y avait personne, ni rien. Et je me suis dit, ah, j'ai bien fait quand même. J'ai trouvé une chambre à air dans le garage qui correspondait au vélo. J'ai bien fait de la prendre, la chambre à air de rechange. J'ai sorti la chambre à air de rechange, j'ai défait ma chambre à air, j'ai gonflé, la chambre à air de rechange était crevée aussi. Chose que j'avais pas vérifiée. Donc il me restait les rustines. Mais pour les rustines, il faut encore trouver où est le trou à l'origine. Donc je suis allé sonner chez les gens de Rumont pour voir s'il y avait quelqu'un. À la fin, j'ai vu un monsieur qui arrivait avec son tracteur. Donc je l'ai ailé, j'ai couru jusqu'à chez lui. Je lui ai demandé s'il avait un seau d'eau. Il m'a demandé pourquoi c'est pour votre cheval. J'ai dit non, c'est pour mon vélo. Et donc, j'ai mis ma chambre à air dans le seau d'eau pour trouver où était le trou. Et j'ai trouvé comme ça où était le trou. Parce qu'il faut dire que le vélo, quand même, monte aux années 50. Hein. Donc, c'est un vélo bien lourd, bien costaud par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais en pointe, il y a 60 ans. Et là, je suis reparti après ce moment-là. Et je me suis complètement trompé de route. J'avais prévu d'aller vers Château-Renard en passant par le sud-est de Montargis. Et je me suis retrouvé sur une route à quatre voies qui remontait vers Fontainebleau. Donc complètement à l'opposé. C'est-à-dire j'avais bien trouvé la bonne route, mais je l'avais pris dans le mauvais sens. Avec les camions qui me doublaient, et j'ai fait 7 km sur cette route-là et je me suis arrêté. J'ai dit, c'est pas possible, je suis pas sur la bonne route. J'avais prévu de prendre des petites routes, j'avais pas prévu de prendre des 2x2 voies avec des camions qui me doublent à 110. Puis j'ai regardé la carte et j'ai dit, attends, d'après la carte, vu où je comprends où je suis, il y a une petite route qui doit passer en dessous de cette grande route et je vais voir si je peux la rejoindre avec le vélo. Et je suis descendu. Et là, le temps passant, j'avais appelé mon ami en disant, écoute, là, je suis en train de ramer un peu, je suis perdu, je vais bientôt en avoir marre parce qu'il se faisait 3 heures de l'après-midi. Regarde ce qu'il y a comme hôtel, qu'il soit vers Château-Renard et tout, que je vais réussir à rejoindre dans une heure. Il sera déjà 4 heures en partant à 6 heures du matin. Ça fait déjà pas mal de route. Elle m'a dit, il y a un petit hôtel à Château-Renard. Je trouve cet hôtel, il faisait beau, je m'assois dehors, je prends une petite bière, et puis là je dis ça y est, je suis arrivé, et à la brave dame, quand elle m'amène la bière, je lui dis, et vous pouvez me réserver une chambre pour ce soir? Et elle me dit, mais on n'a pas de chambre, on est complet. Je dis, vous êtes complet? Je lui dis, mais je suis en vélo, comment je vais faire? Moi j'en peux plus, là j'ai fait ça. Donc, elle revient au bout de 5-10 minutes, elle me dit, j'ai trouvé quelque chose à Douchy. Je dis, je ne sais pas si je vais pouvoir faire 10 km. Elle me dit, je retiens ou pas la chambre? Je lui dis, allez-y, retenez-la. Mais vous leur dites, vous voyez, il est bientôt 5 heures, j'arrive pas avant 7 heures là. Je vais ramer sur la route. J'ai rejoint ce petit hôtel. Et puis, je suis allé me coucher quand même assez rapidement. Hein. J'ai marché un peu juste dans le village de Douchy. Et après, je suis allé me coucher. J'étais content d'avoir fait ça, puisque c'était un défi que je me donnais à moi-même. Hein. Je dirais qu'il y a toute une période de la vie où les défis, c'est pour les enfants, c'est pour la femme, c'est pour la famille, c'est pour tout ça. Et puis, on arrive à la retraite, c'est le défi de penser à soi, de se dire on est encore en forme, je vais essayer de me le prouver à moi-même. Voilà, c'est tout, sans aller chercher plus loin, sans prise de tête. Je me suis donné un défi, je vais voir si j'y arrive, ça serait mieux que j'y arrive. C'est tout, sans rien de plus. Je suis reparti de Douchy et j'ai continué vers le sud-est et je suis passé à Fouronne et à Mailly-le-Château. Donc j'ai très rapidement rejoint, il était 3h de l'après-midi, par 35 degrés à l'extérieur avec une côte qui faisait 4 km de long. J'ai fini par rejoindre la maison dans Lyon. Alors là j'ai dit ça y est, je suis arrivé, j'ai réussi mon défi. Je vais ouvrir la porte, j'ai pas oublié les clés, c'est bien. et je vais enfin me reposer. J'ai ouvert la porte, et là, il y avait un nid d'abeilles qui s'était mis dans la cheminée. J'avais des milliers d'abeilles mortes dans la maison. Il faisait 17 degrés dans la maison avec 35 dehors, grâce au mur épais. Et l'air chaud qui est rentré, chargé d'humidité, a condensé sur le carrelage. Ça fait que j'avais 1 cm d'eau et des milliers d'abeilles sur le sol. Donc, au lieu de me reposer, pendant une heure, j'ai balayé des abeilles, passé la serpillière pour remettre la maison à peu près en état avant de pouvoir m'allonger sur le divan tranquillement. Voilà, c'était 232 km en vélo en une journée et demie, un peu plus d'une journée et demie, quoi. Excuse-moi, il y a...
C'est la soupe.
C'est pas pour moi, donc on verra bien. Bon, j'ai pour principe d'essayer d'avoir un défi par an, comme ça, comme à la piscine, essayer de nager quelques kilomètres de plus que ce que j'ai fait l'année d'avant. À chaque moment, il y a une espèce de défi pour se dire, quand on a arrêté de travailler, on n'est pas si vieux que ça. Hein. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, prendre sa retraite, un reportage de Sophie Knapp, réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Christian, à Josiane et à Bernard. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Marguerite Delassa, c'est notre formidable stagiaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent nombreux. Oh!